C'est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, avec de belles images, de la poésie, du minéral.
LEM, l'émission, sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui vous fait entendre le Finistère et qui vous le fait voir en imagination. C'est ce qu'il se passe quand on reçoit une photographe comme aujourd'hui, ça arrive. On aime aussi vous parler photo sur la radio, comme c'est un art auquel on croit. Et non, tout le monde ne peut pas être photographe sous prétexte qu'il est doté d'un smartphone. Pour être photographe reconnu, professionnel, il faut un regard, il faut un point de vue, une sensibilité, un sens du visuel, beaucoup de travail aussi. Mon invitée vous dira le contraire, elle vous dira que c'est une question de temps. Pour émouvoir, en tout cas pour transmettre par la photo, il faut aussi parfois des mots. Et notre invitée aime associer les mots des autres à ses images. Elle est déjà venue sur cette antenne, on aime la recevoir parce qu'elle photographie près de chez nous aussi. Elle nous fait mesurer la beauté qui nous entoure. Elle sort un nouveau livre, c'est Aïcha Dupois de Guitare, bonjour.
Bonjour.
Alors tu vas nous dire ce que c'est vraiment être photographe. Alors il y avait eu Eau intérieure qui était coécrit avec le poète Gilles Baudry. Là c'est Ressac et silence et donc c'est ce livre de 8e qui a été pensé et coécrit avec un poète qui est disparu qui s'appelle Jean Lavoué. Alors je ne sais pas si dans les 8 livres à chaque fois c'était texte et images, mais est-ce que c'est important pour toi d'avoir des textes à la base ?
Alors, c'est pas forcément à la base, mais c'est en dialogue avec l'image. Moi, j'aime la beauté des mots. Et quand on les lit à voix haute, il y a aussi une beauté sonore, la beauté de l'image du mot, la beauté sonore. Et donc, j'aime bien, moi, le dialogue avec la photo. Après, je laisse le poète s'inspirer de mes photos et écrire selon son imagination. C'est pas forcément moi ce que j'ai vu à ce moment-là. Et ensuite, le lecteur fait encore son travail à lui et il imagine ce qu'il veut à son tour. Mais c'est vraiment un dialogue.
Et qu'est-ce que tu aimes dans la poésie, cet art particulier ?
La poésie, c'est ce qui nous entoure partout autour de nous. Et parfois, on n'y prête pas attention. Et pourtant, ça nous fait tellement de bien. C'est quelque chose qui habite le monde, qui est gratuit, qui est là autour de nous, qui est disponible. Et si on est disposé à l'accueillir, ben ça nous ouvre un monde plus grand.
C'est vrai. Et alors c'est vrai, quand on pense poésie, on pense plutôt à justement de l'écrit, mais c'est pas que l'écrit, la poésie.
Ah non, la poésie, alors on a souvent été traumatisés à l'école avec les poèmes à apprendre par cœur, qui doivent rimer.
En plus. C'est
donc,
vrai.
Bon, il y a des poèmes qui riment, il y en a qui riment pas.
Et c'est pas un problème.
Et la poésie, c'est aussi l'image, c'est aussi la danse, c'est aussi la musique. C'est tout ce qui nous touche d'une manière émotionnelle et qui nous relie. Aujourd'hui, on parle tellement de tout ce qui nous divise. On est tous différents. Ça, c'est vrai. Et c'est bien.
Et tant mieux, ouais,
et tant c'est mieux, ce que j'allais dire. Parce que sinon, ouais, ça ne marcherait pas bien. Mmh. Et la poésie, elle célèbre ce qui nous unit. Et donc, c'est un beau cadeau, quand même.
Alors, la poésie, là, en l'occurrence, la poésie écrite, c'est celle de Jean Lavoué, alors que je ne connaissais pas. Qui était ce monsieur ?
Alors, Jean Lavoué, c'était un monsieur dont on n'oublie jamais la rencontre. Il a marqué toutes les personnes qu'il a rencontrées. C'était un ami en commun avec frère Gilles Baudry.
Avec qui Au intérieur a été écrit. Ouais.
Voilà, et c'était un homme d'une grande humanité, un poète qui a fondé également une maison d'édition, L'Enfance des Arbres, et qui a donc publié ses propres recueils, mais pas seulement, aussi d'autres poètes avec d'autres artistes qui sont illustrateurs, peintres, graveurs. Donc c'était un homme qui était ouvert à toutes les formes d'art, et aussi essayiste, qui a écrit de nombreux livres, des réflexions, des pensées très, très profondes, très, très belles sur des écrivains et des poètes qu'il admirait.
Il vivait dans le coin ?
Il vivait à Hennebon.
Ah oui, bon, un breton. Et il a un rapport avec le photographe Stéphane Lavoué ou pas spécialement ?
Non. Non.
Ça me venait comme ça.
C'est vrai.
Ouais. Et comment est-ce que vous êtes rencontrés il y a longtemps ? Enfin, comment est-ce que vous avez travaillé ensemble sur ce livre ?
Alors on s'est rencontrés à l'abbaye avec frère Gilles parce que nous avions cet amour de la nature en commun, de la nature, de l'émerveillement de ce qui est autour de nous, la nature en Bretagne à proximité. Jean Lavoué aimait beaucoup marcher le long du Blavet, qui l'inspirait énormément, l'eau, les arbres. Et c'est ainsi qu'il a fait la préface de notre livre Eau intérieure
en
2019.
Ça. D'accord.
Mais c'est une amitié qui a duré après sur le long terme. Et puis un jour, je lui ai proposé de faire ce projet avec moi. Et à l'origine, c'était lui qui devait l'éditer. Et c'était tout nouveau pour lui, cette thématique des roches qui semblent inertes et immobiles et qui, en fait, c'est juste qu'elles n'ont pas la même échelle temps que nous.
Eh oui, c'est vrai.
Voilà.
Il y a une évolution, bien sûr.
Bien sûr.
On le sait sur cette radio, parce qu'on fait quand même régulièrement de la géologie. Puis on est dans le géoparc d'Armorique, donc on va en reparler, mais c'est vrai qu'il y a une richesse vraiment géologique. Tu faisais les photos et c'est lui qui écrivait. Enfin, comment ça se passait, cette composition?
Oui, effectivement, c'est moi qui ai réalisé les photos. Alors ça a pris du temps. J'en avais déjà certaines dans mes dossiers, mais j'en ai aussi fait d'autres. Et je les lui envoyais régulièrement. Et ensuite, il me répondait quand il le voulait. Il n'y avait pas de deadline.
Oui, oui.
Et il m'envoyait les poèmes qu'il avait écrits, inspirés par mes photos.
Et donc, il y a eu combien de poèmes? Enfin, peut-être qu'ils ne sont pas tous dans le livre, j'imagine. Enfin...
Il a écrit 60 poèmes. Je n'en espérais même pas tant.
Pendant combien d'années?
En 2 ans.
Oui, d'accord. Et donc, t'en as sélectionné. Alors, je te laisse en lire un. On commence par la fin du livre, c'est ça? Et donc là, on est page 116. Alors, il faut décrire quand même la photo qui est face, parce que c'est pareil, hein, rien n'est laissé au hasard dans ce livre. Qui fait 120 pages, c'est ça?
Oui.
Et alors, c'est un gros plan sur une roche qui est un petit peu fissurée, fracturée, avec une des formes qui se dessine, c'est un cœur, enfin, on peut dire ça. Enfin, je ne sais pas si tu as vu ça, moi je vois ça.
C'est vrai. On peut imaginer. Une des seules photos où on peut vraiment retrouver quelque chose qui nous est.
Quelque chose de figuratif.
Mm-hmm. Mais c'était tellement inattendu. Et puis, en plus, on perd l'échelle.
Oui, on ne sait pas trop là à quelle échelle c'est. Ouais.
Ça pourrait être sur la Lune.
Ah, bah ça pourrait, tout à fait. Ouais. C'est quoi? C'est un très gros plan
C'est une macro, ouais.
Ah, ouais, d'accord.
Un gros plan. Mais. Voilà, on ne sait plus, on a perdu l'échelle.
Et qu'est-ce que c'est comme roche? Tu sais?
Enfin, c'était du grès.
D'accord.
Et ce qui était amusant, c'était ce contraste entre la rugueur de la roche, la rugosité.
Ouais.
Et puis les courbes toutes douces du cœur qui se détachent, je ne sais pas comment il est apparu.
Oui, c'est vrai. Comment ça a pu se faire? Parce que les autres fissures de la roche, elles sont discontinues, alors que là, ça dessine vraiment une ligne continue. C'est vraiment étonnant. Enfin,
oui, c'est très étonnant.
Ouais. Un géologue pourrait peut-être nous répondre, évidemment. Mais bon, tu t'es lancé dans la photo de minéral, on en reparlera tout à l'heure, mais est-ce que tu es devenu un petit peu géologue pour savoir quand même?
Alors,
ça
au départ, j'aime bien ne pas comprendre. Pour d'abord être étonnée et puis essayer de, par mon imagination, de trouver des solutions improbables. J'aime bien d'abord imaginer. Parfois, j'avais vu des galets qui sortaient d'une falaise. Mmh. Je me suis dit, c'est comme ça qu'ils naissent, les galets, ils sortent ploutes.
Eh ouais, pas mal.
Bon, c'était pas du tout ça.
Non, c'était une ancienne plage, j'imagine.
Voilà, c'est ça.
Fossilisée.
Mais j'aime bien au début ne pas comprendre, vous imaginer un scénario improbable. Ouais. Et ensuite, par contre, dans un second temps, me renseigner. Et là, vraiment, mieux comprendre le paysage et la géologie.
Ouais,
et
puis c'est passionnant en plus.
Oh, ouais,
c'est excitant de savoir que c'était cette plage, elle avait des millions d'années de plus la plage actuelle. Enfin, c'est
incroyable.
Ouais.
Et puis là, je projette tout dans ma tête, j'imagine tout. Donc c'est un autre monde qui s'ouvre à nous. Et c'était juste là, sous nos pieds.
Mm-hmm. Et je comprends. Alors ce texte.
Lorsque nous aurons compris que dans la roche la plus dure battait aussi un cœur. Alors nous saurons que nous sommes pétris dans la même main, battant au rythme de l'amour.
Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que ça a l'air mort, le minéral, mais en fait non, ça évolue, c'est de la nature comme le reste, et ça évolue comme le reste.
Mais complètement, et puis parfois en plus ce sont des sédiments, et les sédiments c'était des êtres vivants.
Exactement. Ben oui, des micro-fossiles, des gros fossiles.
Toute cette vie qui s'est accumulée pendant des millions d'années. Alors que nous, on ne sera même pas un petit grain de sable dans cette strate.
J'ai peur qu'on laisse pas mal de, comment dirais-je, de plastique, par exemple.
Ah, par contre...
On verra bien ce que les géologues en pensent dans quelques années. Mais, et justement, ça rejoint ce que tu disais hors antenne, mais qu'il faut que tu dises ta façon de travailler. C'est que ce qui fait un photographe, c'est pas forcément la technique, c'est ça. C'est...
Alors, moi, je n'ai pas la prétention de m'autoproclamer photographe. Un peu comme il y en a qui font la cuisine à la maison et qui aiment recevoir les amis, mais ils ne vont pas tenir un restaurant pour autant. Bah, moi, c'est un peu ça. Je fais de la photo pour les partager, mais j'ai des amis photographes professionnels qui en vivent et qui sont vraiment de... Voilà, c'est une autre démarche, un autre travail, et qui sont bien mieux équipés que moi. Moi, c'est un simple appareil en bandoulière et lorsque quelque chose m'interpelle... Je prends le temps d'observer et puis ensuite le photographier et puis pour le partager.
Et quand tu vas faire tes photos de minéraux, comme ça bouge pas, on se dit c'est plus facile. Mais comment tu fais, ouais, comment...
Là, c'est la lumière qui va révéler les matières, les couleurs. Donc l'avantage d'habiter ici, c'est de bien connaître les lieux et de savoir à quel moment je peux espérer. Rien n'est jamais garanti. Une lumière qui me permettra de révéler la magie que j'ai pu ressentir. Donc, par exemple, quand ça concerne des grottes marines...
Il y en a quelques-unes dans le livre « Ressac et silence ». Ouais.
Donc là, selon leur orientation, ce sera plutôt le matin ou le soir pour que la lumière entre à l'intérieur. Et puis aussi les conditions météo, hein, parce que s'il y a 2 mètres de houle...
Ah oui, on ne va pas aller dans les grottes.
Je ne vais pas aller dans les grottes. Donc ce sont les éléments qui décident du moment où je peux me rendre sur place.
Et donc là, évidemment, il y a un repérage préalable dans le cadre des grottes notamment, mais j'imagine que aussi parfois c'est juste au cours d'une balade, enfin notamment pour tout ce qui est les détails, enfin ce cœur dans la roche.
Oui, ce sont des rencontres. Et parfois je passe des heures sur une crique. Je vais pas marcher plus de 3 mètres, hein. Mais par contre, je vais passer un temps fou à observer chaque recoin de la roche, chaque galet, des algues qui se déposent aussi sur les roches. Ce qui est dans le livre, je n'ai absolument rien composé. Ça s'est présenté tel que vous le verrez dans les pages.
Même quand il y a ce bouquet de galets, là, on voit un moment une photo avec un bouquet de galets et puis il y en a deux, enfin un qui est cassé en deux, on ne sait pas trop... qui est orange, mais alors,
ah oui,
d'une couleur formidable. Là, tu n'as rien composé, tu ne les as pas bougés, ni rien.
Du tout.
C'était comme ça.
C'est des sources ferrugineuses, comme ça, qui sont appelées le long des falaises. Et puis, au fil des marées, les galets sont déplacés. Et puis, il est tombé comme ça, plouf, au milieu des zones tout gris. Et puis, parfois, c'est improbable aussi. On est sur des galets tous de grès, ils sont noirs, ou beige, marron. Et puis, au milieu, il y a un galet tout rond de granit. J'ai dit d'où il sort.
Et ouais. Mais tu disais, t'es quand même allé à la recherche de certains minéraux en particulier. Enfin...
Oui, je suis aussi allée sur la côte nord parce que je trouve incroyable ces roches de granit qui sont modelées par le vent, par la mer. On a l'impression qu'il y a des mains qui se sont enfoncées dans la chair du granit et qui ont laissé leur empreinte. Et puis parfois, ils se retrouvent dans des situations improbables, en suspens, en équilibre. Et je n'avais pas trop autour de chez moi, donc je suis allée un petit peu plus dans le nord.
Et quand on dit autour chez toi, c'est la presqu'île. Enfin, est-ce que tu es allée un peu dans les monts d'Arrée d'ailleurs?
Non, ce sont uniquement des roches du bord de mer. Mm-hmm. Parce que souvent, quand on va au bord de mer, on regarde la mer et on tourne le dos aux roches. Moi, j'ai proposé de tourner le dos à la mer et regarder ce qui se passe dans notre dos.
Après, les monts d'Arrée, de toute façon, il y avait déjà du minéral dans tes précédentes photos, ce qu'il faut le dire aussi. Hein,
Ça me fascine, le monde minéral, parce que moi, je viens d'un... Je ne suis pas originaire de Bretagne, je ne sais pas si je peux le dire en direct.
Ah bah, si, tu peux avouer. C'est
bon.
Tu as ton passeport, ça fait longtemps que tu...
Je me suis bouturée en Bretagne. Mais je viens d'un endroit tout plat, il n'y a pas de cailloux. Et quand je suis arrivée ici, et que j'ai vu des grandes falaises, Wow. C'est merveilleux, fascinant. Et ça continue à chaque fois que je vois un gros caillou. J'adore les cailloux, j'adore les roches.
Et surtout ici, enfin, on a vraiment de la chance. Hein. Comme je disais, on a une réserve géologique en presqu'île de Crozon. On a bon, même les monts d'Arrée, c'est vraiment... il y a des endroits fabuleux, les chaos. Bon, on a pu les voir d'ailleurs, tu les as.
Oui, dans le livre Monts d'Arrée avec mon amie co-autrice Hélène Duguesou. Et là, c'était... Là, en fait, c'est ce qu'on ressent dans les roches, c'est cette puissance tellurique comme ça qui jaillit devant nous ou qui dans sous une forme de chaos qui était là depuis des millions d'années et qui nous toise comme ça, nous qui ne sommes que de passage. Et je trouve ça fascinant, en fait, ces forces qui sont invisibles parce que c'est dans une échelle temps tellement longue, mais qu'ils le sont devant nous quand on voit les strates qui se plient ou quand on voit des roches qui ont dévalé une falaise. Enfin, voilà, c'est le mouvement qui a été figé à un instant.
Et qui dialogue cependant avec d'autres éléments naturels plus mobiles, on va dire. Enfin, notamment, alors là, il n'y a pas de végétaux, si un peu quand même. Si, si, il y a des lichens notamment, je crois. Hein.
Oui, il y a quelques lichens et quelques algues qui viennent à la rencontre de la mer.
C'était un... Bon, en fait, tu n'avais pas de parti pris, j'imagine, là-dessus. Tu ne t'étais pas dit, on ne va pas mettre de végétaux ou...
Non, les deux mondes se côtoient. Et puis, en plus, c'est parfois, ils sont immergés aussi. Et puis, les lichens, on peut facilement les identifier. Mais il y a aussi des micro-organismes, des micro-algues, que de loin, on ne peut pas forcément reconnaître. On peut croire que c'est la couleur de la roche. Et en fait, non, c'est du vivant qui vit en symbiose dessus. Donc, parfois, on ne sait plus ce qui est roche, ce qui est végétal, ce qui est animal. Et j'aime bien un peu quand ces frontières ne sont pas perceptibles immédiatement.
Et puis alors, il y a quand même le dialogue. Tu disais, on ne regarde pas la mer, on regarde les roches, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a le dialogue avec l'eau, et avec l'eau salée essentiellement, puisqu'il y a pas mal de grottes. Comment les grottes, alors comment est-ce que tu travailles, entre guillemets, dans les grottes?
Alors, les grottes marines, c'est principalement autour de la presqu'île et je m'y rends en kayak principalement et parfois à la nage aussi. Mais les deux sont des expériences différentes. Le kayak permet d'aller plus loin, donc d'explorer davantage. Et la nage permet d'être plus en immersion et de vraiment ressentir dans tout son corps les éléments. Et j'ai le souvenir d'être entrée dans une cavité, parce que moi, dès qu'il y a une ouverture, bah, ouais. Je vais voir.
t'es pas claustrophobe.
Non. et j'étais entrée comme ça à l'intérieur de la grotte, mais j'étais donc en train de nager. Et au fur et à mesure, le regard s'habitue à l'obscurité. Donc au départ, c'est noir, et puis petit à petit, les contours apparaissent. Et là, je vois que tout autour de moi, les formes sont assez douces, sont assez lissées par le ressac, et puis assez rougeoyantes, un petit peu comme de la chair, en fait, comme si j'étais dans les entrailles de la terre.
Oui, exactement, ouais.
Incroyable. Et puis, il y a ce... Même s'il n'y a pas de vague, il y a quand même toujours un léger mouvement de houle. Donc, je me sens soulevée doucement, un peu comme une lente respiration.
Ah, c'était le retour à... À l'utérus.
Alors je sais pas, non, parce que je fais pas de rapprochement avec l'humain. C'était plutôt pour moi le ventre de la terre. C'était la en fait, bon, j'étais pas allée très loin, hein, mais j'avais l'impression d'entendre la respiration de la terre et d'être dans ses entrailles et de découvrir un petit peu ce qui se cachait derrière les roches.
Ah oui, puis ce qu'il faut dire, c'est que ces grottes, il y a des couleurs aussi qui sont absolument extraordinaires, et puis il y a aussi du son, puisqu'on est en radio, voilà, on ne l'a pas rapporté, ce son, mais alors, il y a des grondements, il y a des monstres hein, dans les grottes, on les a entendus. Hein.
Ça, c'est ma plus grande frustration, c'est de ne pas avoir les sons avec les photos.
Et oui, alors, du matériel d'enregistrement dans les grottes, ce n'est pas évident. Hein.
Ah, il faut un bon équipement.
Ouais, il faut vraiment un hydrophone, je pense, parce que... Et alors, on va lire un autre texte de Jean Lavoué, justement, face à une grotte. Alors, on est dans l'intérieur de la grotte, on voit vraiment un ray lumineux, mais assez... Je ne sais pas s'il faisait très soleil, ce jour-là où c'était le petit matin.
Enfin, c'est, si, il y avait quand même un franc soleil parce que nos eaux ont beau avoir un peu de visibilité, mais c'est quand même pas Tahiti. Hein. Donc, il faut une sacrée lumière pour que ça entre vraiment à l'intérieur des grottes. Donc, mais c'est ça qui était, que j'aime bien, c'est ce contraste entre le soleil qui éclabousse comme ça à l'extérieur. Et une fois qu'on est à l'intérieur, c'est beaucoup plus intimiste, c'est plus secret, c'est plus mystérieux.
En plus, là, l'entrée, elle a l'air, c'est vrai qu'elle a l'air assez étroite. Alors, je vais le lire. Nous n'approchons du mystère qu'en nous immergeant dans les profondeurs du silence. Nous allons vers des îles, toujours en promesse d'horizon, d'infini et de lumière. Et oui, c'est vrai que là, on se tourne vers la sortie de la grotte. On a envie d'en sortir quand même, un peu.
Yeah. Voilà, c'est l'idée, c'est d'être attiré par cette obscurité qui cache des choses, un peu comme dans les sous-bois, que j'aime beaucoup. Si, je fais souvent le parallèle entre les fonds marins et les sous-bois, c'est un petit peu la même expérience. Mais il y a toujours quelque part cette lumière comme ça qui peut être discrète, mais qui va nous attirer, qui nous rassure aussi. Hein.
Oui, parce que s'il fait vraiment noir, en plus quand on est dans l'eau, c'est, en plus on sent, je ne sais pas si c'est psychologique ou si c'est réel, mais on sent tout à coup que l'eau est plus froide, on a l'impression en tout cas, quand on nage dans les grottes, que l'eau est plus froide.
Oui, c'est pas qu'une impression, ouais. C'est vraiment, c'est froid.
Et alors, t'as jamais été attirée vers le fond, enfin, c'est-à-dire l'envie de photographier le fond? Parce que c'est beau aussi quand on regarde, quand on met la tête sous l'eau et qu'on regarde.
Alors c'est très beau, mais je suis très nulle en apnée.
Mais même avec un tuba.
En fait, pour cela, il faudrait nager avec avec une ceinture de plomb, parce que moi, je suis quand même très frileuse. Beaucoup de gens croient que oh là là, c'est bien, tu es courageuse, tu vas dans le froid. Non, mais j'ai très froid.
Oui,
donc j'ai une combi très épaisse.
Oui, c'est ça.
Donc, combi très épaisse, bah, on flotte beaucoup.
Alors, exact, c'est vrai.
Donc, c'est difficile de descendre.
Je comprends.
Alors, pour ça, il faudrait une ceinture de plomb.
Ouais.
Mais pour ça, il faut la porter, il faut l'amener. Alors, oui. Je me dis, bon, bah, c'est pas grave. C'est non, bien c'est là grave. Aussi.
Non, mais de toute façon, il y a tant à voir en restant juste en surface, voire un petit peu en s'élevant. Hein. Et donc, est-ce que tu as une autre anecdote à nous raconter sur ces photos de minéral, que ce soit pas forcément dans les grottes d'ailleurs, ça peut être ailleurs.
Oui, il y a une photo que j'ai faite d'une vague qui semble fossilisée. Et c'est une vague que les presqu'îliens reconnaîtront certainement.
Oui.
Et c'est du schiste en fait, et qui a été creusé par les vagues, par les ressacs. Et c'est une vague qui a la particularité d'apparaître et de disparaître au fil des tempêtes. Parce que la mer soit retire tout le sable et laisse apparaître la roche, ou pendant l'été en général, elle ramène tout ce qu'elle a dérobé pendant l'hiver. Et ce qui fait que parfois elle disparaît parce que le sable et les galets ont monté.
Ah oui, elle est enfouie dans le. Ah oui.
Et alors, ce qui fait que c'est toujours une surprise. Comment elle est aujourd'hui?
Ah oui, on ne sait pas parce qu'en fait, cette photo, elle peut avoir 2 ans. En fait. Ouais.
Et alors, c'est drôle parce que ça, on peut se dire, c'est comme une vague qui est figée dans le temps. Eh bien, pas tant que ça, finalement, parce qu'elle aussi, elle est capable de disparaître.
Exactement, oui, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que ça a inspiré à Jean Lavoué comme texte?
Est-ce la mer qui s'avance ou son double obscur, qui aurait gardé l'empreinte de la vague? En ce dialogue millénaire, où des forces prodigieuses se conjuguent dans son immobilité, la roche se souvient de la fougue de l'étreinte.
C'est beau, et à chaque fois, c'est des textes qui sont bons, très courts. Hein. C'est presque des haïkus, d'ailleurs, on pourrait dire, pour faire une comparaison.
Alors, au niveau du format, oui, mais pas de la manière dont ils sont conçus. Jean Lavoué avait pour habitude d'écrire des poèmes beaucoup plus longs. Et c'est moi qui lui ai demandé de faire plus court. Alors, le pauvre, je lui ai demandé un double exercice compliqué, une thématique pas habituelle, et puis des textes plus courts.
Il s'est renouvelé.
Oui, il a osé, c'est bien. Et donc, ce que j'aime, moi, dans les poèmes courts, c'est qu'on va à l'essentiel. Et ça me semble assez important de ne pas se perdre dans les mots. On se perd suffisamment aujourd'hui dans le blabla, dans tout ce qui nous stimule en permanence. On est tout le temps stimulé. Alors, je me dis, Bon,
un peu de sobriété.
Peu de sobriété et des mots justes. Voilà, juste l'essentiel.
Alors, Jean Lavoué, il n'a pas pu éditer ce livre « Ressac et silence ». Alors, un petit mot de l'éditeur
Oui, on a eu la chance que les éditions Calligramme aient accepté de reprendre le projet. Ils nous ont réalisé un très très bel ouvrage avec le plus grand soin. Et puis surtout, en plus, c'est assez fort émotionnellement parce que le premier livre de Jean Lavoué, le premier livre de poèmes, avait été édité chez Calligramme.
Qui est une édition quimperoise spécialisée dans la poésie, plutôt.
Voilà, oui, aux origines Quimper. Maintenant, il se trouve à Rennes, mais voilà, les origines. Beaucoup de personnes ont connu Calligramme à Quimper.
La librairie, Calligramme. Très bien, merci beaucoup. Alors, c'est Aïcha Dupois de Guitare, Jean Lavoué, donc les co-auteurs de ce livre qui s'appelle « Ressac et silence » avec une préface de Pierre Tanguy. Et c'est les éditions Calligramme, Bernard Guimaud. Merci beaucoup Aïcha.
Merci à vous.
Et on peut bien sûr réécouter tout ça sur le site internet de Transistor.